Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kerrow.
Vous écoutez
RMC. RMC Football Show.
Benoît Boutron.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le RMC Football Show. RMC Football Show, spécial réveillon de Noël. On est ensemble jusqu'à 20h avec notre Père Noël. C'est Manu Amoros. Salut Manu.
Salut Benoît, bonjour à tous.
Et merci d'être là. Manu, en pleine préparation, j'imagine. Qu'est-ce qu'on mange ce soir chez les Amoros alors?
Alors, bah écoute, que des spécialités espagnoles.
Ah ouais, alors
Alors, bacalao à l'ail. Bacalao con ajo. Je sais pas si tu connais. C'est de la morue avec de la purée et de l'ail.
C'est pas plutôt portugais ça?
Non, pas du tout. Non. D'accord. C'est espagnol. Après, il y a l'ensaladilla. C'est un peu de purée aussi avec pas mal d'ingrédients à l'intérieur.
Ouais.
Et après, bien sûr, les classiques, foie gras, saumon, bon. Tout ce qui va avec.
Ouais. Dis-moi, bacalao, ouais. Donc à l'ail.
Bacalao. À l'ajo.
Ok, ouais. Très bien. Heureusement qu'on est en période Covid, comme ça personne s'embrasse après, parce que quelqu'un qui sent l'ail, c'est insupportable.
Ouais, mais c'est bien, c'est super bon. Tu sais, il faut manger de l'ail, c'est bon pour la santé.
C'est vrai, c'est bon, mais après on sent pas bon. Mais en tout cas, on est ravis d'être avec toi pendant 2 heures. Merci. Merci d'être avec nous, évidemment, Manu. On vous souhaite à tous un merveilleux réveillon de Noël et d'excellentes fêtes de fin d'année. Ouais. Le RMC Football Show qui va vous accompagner tout au long de cette période et jusqu'à la reprise de vos émissions préférées, notamment Rotten sans flamme. D'ailleurs, Manu, à 19h, on va rediffuser l'interview exceptionnelle de Kylian Mbappé chez Jérôme le 5 octobre dernier. Un débat viendra juste après. Faut-il déjà faire le deuil de Mbappé à Paris? À 18h30, on aura le Mercato Show, le marché des transferts qui sera ouvert dès la fin de semaine prochaine. À 18h45, on reviendra sur le Boxing Day qui est maintenu par la Première Ligue malgré la multiplication des cas de Covid dans les clubs anglais. Est-ce que c'est une folie? Salim Bongali sera avec nous. Mais on démarre tout de suite par Lyon, ton ancien club, Manu. Un Noël sous tension pour l'Olympique Lyonnais.
C'est Reims qui vient scotcher les Lyonnais dans les dernières secondes.
À mon avis, on n'a pas bien joué. Le pressing n'était pas agressif.
La trêve arrive à point nommé pour des Lyonnais 13e de Ligue 1.
Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
2 ans et demi et puis s'en va. Juninho va quitter son poste de directeur sportif de l'Olympique Lyonnais dès cet hiver.
Au revoir.
3 nuls et une défaite en Ligue 1. Près d'un mois qu'ils n'ont plus gagné en championnat.
Un partout donc. Un dernier résultat à l'image de cette demi-saison.
Non, mais c'est dingue cette histoire.
Et oui, Lyon, Manu, deuxième budget de la Ligue 1 qui pointe à la 13e place du classement à l'issue de la phase aller. Seulement 6 victoires en 18 matchs. C'est le pire classement du club depuis 1995. Manu, avant d'entendre ton avis, on accueille Aurélien Tiercin, l'un des guerriers du jour. Et oui, il est avec nous, c'est bien Noël.
Ouais. Salut Aurélien, je suis plus ancien aujourd'hui. Ça va, Benoît? Salut Manu, salut.
Alors, c'est quoi le menu chez les Tiercin ce soir d'ailleurs?
Alors déjà, ce sera chez la belle famille, donc je suis de cordée d'ouverture d'huître.
Ah, d'accord. Attention à tes mains.
Il y aura du classique. Non, normalement je maîtrise à peu près.
Bon, très bien. Aurélien, tu es venu donc pour nous parler de cette situation à Lyon. On rappelle que tout semblait réuni pour que la saison soit réussie. Fini l'ère Rudy Garcia, personne n'en pouvait plus évidemment. Place à Peter Bosz et sa philosophie de jeu offensif, pardon. Une union sacrée entre le président Ola, le directeur sportif Juninho et même les supporters qui étaient emballés par les promesses de ce nouveau cycle. Oui, mais voilà, Aurélien, tout a volé en éclats en un peu plus de 4 mois, malheureusement.
Oui, et ça a commencé très vite, d'ailleurs, avec une défaite notamment 3-0 à Angers lors de la deuxième journée de championnat. Ce jour-là, il y a une équipe un peu rajeunie. Jérôme Boateng, par exemple, n'est pas encore arrivé. Et en défense centrale, on a le défenseur brésilien Marcelo qui fait un match catastrophique sur le plan sportif. Et surtout, son investissement ne plaît pas du tout à Juninho, le directeur sportif brésilien, demande à Peter Bosz et également au président Jean-Michel Aulas d'écarter Marcelo qui ira en réserve. D'ailleurs, apparemment, selon les infos d'Edouard G, ça se passe plutôt pas mal avec la réserve. Oui. Il est loin
Il se régale en National 2.
Exactement. Bon, il est out. Lyon se remet un petit peu dans le bon sens, mais il y a quand même des résultats qui interrogent. Il y a un match nul, par exemple, à la maison au Groupama Stadium contre Clermont Foot, où après avoir mené 3-1, il y a 3-3 à la fin. Il y a des matchs comme perdu à Nice 3-2, alors que l'Olympique Lyonnais menait 2-0. Voilà, il y a des matchs, beaucoup de points perdus dans les dernières minutes du championnat. C'est encore arrivé contre Metz au Groupama Stadium le week-end cette semaine, avec Lyon qui mène 1-0 et qui se fait rattraper par un but de Boubacar Traoré après 3 minutes simplement. Et ça agace énormément, évidemment. Ça agace Juninho, puisqu'il n'est plus là, on en reparlera un petit peu plus en détail. Ça agace le président, ça agace l'entraîneur et ça agace aussi Bruno Guimarães, qui est le milieu brésilien de l'Olympique Lyonnais, qui est une des satisfactions, on va dire, de la première moitié de saison. On écoute Bruno Guimarães après ce match nul très décevant contre le FC Metz, pardon.
Frustré, on a fait un bon deuxième mi-temps. Les premières mi-temps, on était mauvaise, on n'était pas bon du tout. Après qu'on a marqué, tout de suite, on a pris un but. C'est dur, ça. Il faut que pour la deuxième partie de la saison, on change d'envie. On ne peut pas accepter ça. On dit toujours qu'on n'est pas à notre place, mais on ne fait pas de choses pour montrer. Ça me dégoûte, ça me fait mal. Je suis mal au corps, je vais passer une mauvaise Noël pour ça. J'espère qu'on va changer de stade d'esprit pour amener Noël dans le troisième, que c'est le plus important. On fait toujours 60, 70, on ne joue jamais les 90 minutes bien. C'est ça qui nous marque les premières saisons, il faut qu'on arrête avec ça. On parle toujours, il faut montrer sur le terrain, c'est ça. Il faut plus encore, on ne peut pas marquer une minute après, prendre un autre but, c'est inacceptable ça.
Et donc on entend Bruno Guimarães parler encore du podium. L'Olympique Lyonnais 13e à mi-saison, même s'il y a un match en retard à jouer contre l'Olympique de Marseille. Oui. Parce qu'il y a aussi, en plus des mauvais résultats sportifs, ces incidents en tribune, le match contre l'OM arrêté après 2 minutes, la bouteille reçue en plein visage par Dimitri Payet, les incidents en Coupe de France contre des supporters entre guillemets du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est parti un petit peu en vrille à la mi-temps au Stade Charletti. Donc en Coupe de France, on ne sait pas encore ce qu'il adviendra de l'Olympique Lyonnais. Le podium en championnat, il est à 9 points, alors que la relégation est à 8 points. Donc l'Olympique Lyonnais, à mi-saison, est plus proche d'être relégué en Ligue 2 que du podium. Ouais. Donc voilà, c'est pas terrible. Il y a quand même la Coupe d'Europe, où là, c'est très positif pour l'OL, puisque avec une première place dans son groupe d'Europa League, est déjà qualifié pour les huitièmes de finale en février prochain. On n'a pas encore le tirage au sort pour l'OL, mais voilà, ça fait mal. On pourra parler des départs, notamment de Memphis Depay, qui n'a pas été remplacé. Il manque peut-être aussi un attaquant de grande qualité, et Maxwell Cornet, qui était tant détesté par une partie des supporters, en tout cas.
Carton à Burnley.
Homme de l'année, joueur de l'année à Burnley, arrivé en Angleterre. Est-ce qu'il était si mauvais que ça? C'est pas si sûr.
On a l'impression qu'il y a eu un tournant, Aurélien, tout de même. C'est cette annonce de départ de Juninho chez Jérôme, dans Rotten sans flamme. On a l'impression que effectivement, ça a fait beaucoup de mal à l'Olympique Lyonnais.
Hein. Ouais, grosse annonce sur RMC, effectivement, de Juninho. C'était 2 jours en plus avant le match contre l'Olympique de Marseille. Donc là, c'était vraiment une très, très mauvaise semaine pour Jean-Michel Aulas. Juninho qui parlait, d'ailleurs, on va l'écouter, qui parle de fatigue mentale, qui parle de son rôle de directeur sportif à l'Olympique Lyonnais chez Jérôme Sanflamme.
Je sais que j'ai eu cette opportunité parce que je suis un ancien joueur qui a eu beaucoup de succès au club, parce que si c'était le contraire, j'avais pas cette opportunité-là. C'est clair, ça, et c'est net, c'est normal. Donc, à la fin de saison, je vais bien réfléchir, mais dans ma tête, c'était pour 3 saisons. Pour beaucoup de monde, c'est rien. En directeur sportif, tu fais pas grand-chose, mais mentalement, il y a une fatigue mentale énorme. Et je ne veux pas dépasser en limite. J'ai beaucoup de respect pour le président, j'ai beaucoup de respect pour l'institution, j'ai la gratitude aussi, mais j'ai beaucoup donné à ce club aussi. Oui. Il ne faut pas oublier non plus, parce que j'ai l'habitude juste de parler que le club m'a donné, mais je fais aussi beaucoup de choses pour le club. Moi, j'ai envie de me reposer.
Donc à ce moment-là, on était au stade des doutes. Finalement, ce ne sera même pas 3 saisons, ce sera 2 ans et demi. Juninho, qui était arrivé au début de la saison 2019-2020, qui avait intronisé Silvinho à l'époque. Ensuite, il y a eu l'ère Rudy Garcia et donc Peter Boss. Et il n'ira pas au terme de cette saison, puisque d'un commun accord, il est déjà parti. D'ailleurs, son contrat s'arrête le 31 décembre. Mais officiellement, il a déjà déménagé son bureau. Juninho n'est plus le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui.
Et puis l'actu chaude, c'est donc la prise de parole, Manu, avant de t'entendre, de Jean-Michel Aulas. Il a accordé une interview à nos confrères de l'équipe. Il garde Peter Boss. faute de mieux. C'est un peu comme ça qu'on peut comprendre les déclarations du président lyonnais.
Ouais, exactement. Il restera au moins jusqu'à fin février. Donc, en gros, il lui donne 2 mois pour rétablir la situation en championnat. Alors, il y a du positif, on va dire, pour l'entraîneur néerlandais. Peter est un très, très bon coach. Il n'y a pas de coach sur le marché avec la qualité de Peter. Donc là, tu en rigoles parce que ça veut dire...
Dingue. Moi, je trouve ça dingue comme déclaration.
C'est le meilleur.
En gros, comme il n'y a pas mieux sur le marché, ouais. Bon, on va le garder pour l'instant, alors.
Ouais. Et il dit aussi, on risque de faire... On risque de faire plus mal en cédant à la mode de changer de coach. Donc on sait que Jean-Michel Aulas l'a fait très très peu dans sa carrière, trois fois simplement. Et puis voilà, bon bah et puis Jean-Michel Aulas qui défend aussi son entraîneur, voilà, jusqu'à fin février, il devra rétablir la situation en championnat. Donc il a quelques matchs évidemment pour se remettre à l'endroit.
Alors c'est donc la question que l'on pose ce soir dans le RMC Football Show. Direction, entraîneur, joueur ou supporter, qui est responsable de la mauvaise saison lyonnaise? 32-16 pour participer au débat. Avant d'accueillir Riyad et Antoine, supporters lyonnais qui veulent en débattre avec nous, Manu, ton avis sur la situation de ton ancien club, hein, toi ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, comment tu expliques tout ce qui se passe à Lyon en ce moment?
Déjà, si on peut revenir à ta question, c'est la faute des joueurs avant tout, parce que c'est les joueurs qui jouent. Qui est l'entraîneur qui fasse jouer les joueurs dans une tactique en 4-4-2, en 3-5-2, en 3-4-3, les joueurs doivent s'adapter et doivent être performants sur le terrain. Parce que, d'une part, sur le terrain, on peut évoluer comme on le ressent. C'est-à-dire que s'il y a une équipe qui vous emmerde sur le terrain dans un schéma tactique en 4-3-3 par exemple, il faut savoir et avoir l'intelligence de pouvoir modifier sur le terrain de sa propre initiative dans un schéma peut-être qui va convenir davantage et ne pas attendre la mi-temps ou alors entendre le coach en disant il faut changer, il faut faire ci, il faut faire ça. Je crois que l'initiative est très importante aussi, que les joueurs ne prennent pas. Ouais. Après, c'est une question de mentalité. La mentalité, c'est l'entraîneur soi-disant, il est bon, mais bon, quand on voit à Dortmund, il s'est fait injecter. À Leverkusen, il s'est fait injecter aussi. Donc c'est peut-être un entraîneur d'avenir, mais pour l'instant, il ne l'a pas prouvé. Donc il ne faut pas non plus le porter sur un piédestal comme le fait le président Jean-Michel Aulas, parce que il dit quand même qu'il faut. On lui donne pas un ultimatum, mais il a jusqu'à février. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire jusqu'à février alors? Si les résultats sont pas bons, on va le virer obligatoirement.
Ouais. Et ce qui est terrible dans cette déclaration, c'est qu'on vous détaillera dans quelques minutes le calendrier à venir pour l'Olympique Lyonnais. Ouais. Ça va être très très dur. C'est compliqué. Match de coupe et après il y a des matchs contre Lyon, contre Paris, contre Saint-Etienne, contre Monaco. Ça va être très dur pour l'OL.
La petite défense pour Peter Bosz, c'est qu'aussi on peut avoir une vision totalement différente dans 3 semaines, parce que avec le match en retard contre l'OM, en cas de victoire, oui, Lyon revient à 6 points du podium. Ouais, la Ligue 1 est tellement serrée.
Aurélien, en cas de victoire,
oui, et bien sûr.
C'est compliqué pour eux.
12 points de la deuxième place.
Est-ce que tu y crois, toi, Manu, avant donc de donner la parole aux supporters au 32-16, à ce choc psychologique lié à l'annonce de Juninho? Est-ce que tu penses que ça peut avoir une incidence? Je pense notamment aux joueurs brésiliens recrutés par Juni. Oui, est-ce que tu penses que eux ont été affectés par l'annonce du directeur sportif?
Alors, affectés, oui, je pense un petit peu. Mais vous savez, les joueurs, tout ce qui se passe en dehors du terrain ou en dehors de leur petit cocon, ils s'en foutent un petit peu. Hein. Juninho, je pense qu'il est parti parce que il veut devenir entraîneur, ça le démange complètement, parce que il a été un peu frustré de rester un petit peu dans l'ombre, et chaque fois qu'il a voulu donner des conseils ou essayer d'exprimer une quelconque idée sur le jeu ou sur l'ambition des joueurs, il s'est fait refouler par les entraîneurs, ce qui est tout à fait normal, hein, chacun a sa place. Mais je crois que les joueurs, je sais pas, oui, un peu affectés, mais bon, pas tellement non plus. Hein.
Mais tu vois, ce que je trouve intéressant dans tes propos, c'est également ce que disaient hier Capitaine Larquet et Emmanuel Petit, c'est que les premiers responsables pour toi et pour vous, ce sont les joueurs qu'il faut responsabiliser, et qui doivent changer de mentalité, puisque ça fait des années qu'on parle effectivement de confort dans le vestiaire lyonnais. Juste vous rappeler qu'effectivement l'an dernier avec Rudy Garcia, Lyon était champion d'automne avant de terminer très mal la saison, et rappeler également que finalement, du côté des départs à Lyon, il n'y a pas eu non plus 36 départs, il y a seulement Depay, Cornet et Desiglio qui sont partis. Ok, Depay était un leader d'attaque, mais sinon, Cornet était très critiqué et Desiglio n'était pas très utilisé. 18h12, Aurélien Tiersin reste là, Manu Amoros est là et on donne la parole tout de suite à Riyad, supporter lyonnais qui nous a appelé au 32-16. Salut Riyad.
Bonsoir à l'équipe. Bonsoir
salut Riyad.
Alors, à qui la faute, Riyad?
Alors, ça tient qu'à moi, c'est que mon opinion. Je suis pas sûr que c'est vraiment la faute d'une personne en particulier. Je pense juste que c'est la faute à une politique sportive décidée qui est plus dans l'air de son temps. Aujourd'hui, on voit, comme ça a été précisé, on est à 9 points à 8 points de la relégation, 9 points du podium. Toutes les équipes de Ligue 1 sont devenues fortes, en fait. Il n'y a plus de faibles, il n'y a plus de matchs où on se dit on va prendre 3 points. Les clubs ont su se mettre à la page. Et on le voit, on joue contre sans manquer de respect, des petites équipes comme Angers, Metz, etc. Mmh. Où en 3 passes, ils sont dans notre surface, ça va vite, ça joue. Aujourd'hui, nous, je pense qu'on n'a pas su se mettre à la page. La faute, je pense que c'est la politique sportive qui fait que on compte beaucoup sur les jeunes, donc on critique la maturité.
Oui, mais qui l'amène, Riyad, la politique sportive?
Mais Riyad, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que tu as la qualité de l'effectif qui est supérieure à Angers ou à Metz. Donc, c'est une question.
Ah oui, Riyad, quand même.
Ah ben oui, quand même, Riyad. Si tu prends quand même les noms qu'il y a sur Lyon et tu prends les noms qu'il y a sans dévaloriser Metz et Angers, mais la qualité, elle est du côté de Lyon. Après, d'accord, c'est une question, comme tu as raison, c'est une question de mentalité sur le terrain. Il faut savoir se mettre au niveau de ces équipes-là. Et Lyon ne le fait pas.
Voilà, Lyon ne se met plus au niveau de Angers. C'est quand même alarmant. On dit que, OK, il y a des noms à Lyon, je suis d'accord avec vous. Il y a des joueurs, intrinsèquement, ils sont plus forts que la moyenne du championnat. Mais quand je vais jouer à Angers et je vois que les joueurs, ils se donnent à 2000 et que mes joueurs, ils font 45 passes pour arriver dans l'autre surface, je me dis qu'il y a un moment. Alors peut-être que ce n'est pas la qualité intrinsèque du joueur, mais le comportement n'y est pas. Alors est-ce que c'est un manque de maturité? Est-ce qu'on a aujourd'hui, alors c'est bien, on a mis Boateng derrière pour apporter un peu de maturité, mais sur toutes les lignes, on a beaucoup de jeunes qui calment pas le jeu. Alors on dit, j'ai vu là l'interview de Boss qui dit qu'avec les data et tout, on voit que les joueurs courent plus. Peut-être. Alors s'ils courent plus, c'est que c'est pas un problème physique, c'est que c'est un problème d'intelligence. On n'a peut-être pas des joueurs intelligents sur le terrain.
Justement, c'est une question que j'allais te poser, que j'allais poser également à Manu Amoros. Vous avez vu cette stat certainement sur la première partie de saison en Ligue 1. Lyon, c'est l'équipe qui a été le moins menée au score en temps effectif. C'est-à-dire que Lyon, depuis le début de saison, a été moins longtemps mené au score qu'une équipe comme le PSG. Et pourtant, Lyon a concédé 5 défaites. Le match qui a marqué les esprits, souvenez-vous, c'était ce match à Nice, un match à 13h. Lyon menait 2 buts, 3 buts à 1. Il y a eu l'expulsion de Kadewere. Et effectivement, Lyon a fini par le perdre, ce match. Comment vous l'expliquez, ce phénomène? C'est pas arrivé qu'une seule fois de mener longtemps au score et de concéder l'égalisation, voire de perdre ce match.
Benoît, le jour de ce match-là, ils avaient joué, je crois, le jeudi en Coupe d'Europe.
Oui, c'est vrai.
En déplacement, ils étaient rentrés très 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 tard, je crois. Et au niveau des récupérations, c'est vrai qu'ils avaient énormément de difficultés.
Et souviens-toi, on avait critiqué Peter Bosz qui n'avait pas fait de changement. Tu te souviens de ça?
Ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Mais c'est vrai que ils menaient, je crois, 3-1 à deux minutes de la fin.
Ouais.
Donc c'est là où la difficulté, ça veut dire que la fatigue accumulée puis le mental des joueurs à ne pas retenir un résultat est compliqué. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir dans la mentalité des joueurs, comment ça se fait qu'ils n'y arrivent pas.
Riyad, comment tu l'analyses toi?
Je répète ce que je disais, je pense que si les datas prouvent qu'ils courent plus et que physiquement ils sont opérationnels, parce que le match à Nice au début du championnat, il y avait beaucoup d'erreurs d'arbitrage contre nous. Après, j'ai zappé cet épisode-là parce que c'était plus les erreurs d'arbitrage qui, enfin ça cachait des mauvais résultats. À Nice, à 86e, tu gagnes 2-0 et en plus Nice n'existait pas. C'est pas comme si en fait on était dominé, on gagnait 2-0 à contre-cours du jeu. Non, on maîtrisait le match. Tu perds 3-2, il y a un moment où je pense que les failles à Lyon, elles sont dans la tête. Alors comment expliquer ça? C'est un truc qu'on traîne depuis des années. Alors, est-ce qu'il faut un coach mental à Lyon? J'en sais rien. Est-ce qu'il faut mettre des joueurs plus intelligents? Peut-être, certainement, ouais. Est-ce qu'il faut des joueurs plus intelligents, plus matures? Parce que si les joueurs physiquement sont opérationnels, alors il faut des joueurs plus intelligents par ligne. Est-ce qu'il faut faire ça? Je sais pas. Est-ce que ce qui se passe derrière, parce qu'il faut pas oublier que Lyon est un club bien géré, qui laisse pas beaucoup fuiter, mais est-ce qu'il y a beaucoup de choses en interne qui déstabilisent les joueurs? Notamment le départ de Juninho, mais si dès qu'il y a un départ dans l'encadrement, vous commencez à tous être abattus, il y a un vrai, vrai problème de mental, parce que ça arrive dans tous les clubs. Alors, comment j'analyse ça? Je sais pas, mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que la clé passe par là. Si demain, ils arrivent à se remettre vraiment, mais droit dans leur pompe et puis faire abstraction de tout ce qui se passe autour et se concentrer sur le terrain, et je pense que la clé passe par là. L'entraîneur, il est bon. La communication peut-être moins bonne. ce qui se passe en interne, Ponceau et compagnie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ponceau, c'est un gendarme financier placé par les gros actionnaires qui sont...
Qui est le vrai patron du club aujourd'hui, d'ailleurs, Vincent Ponceau.
Ah oui, bah oui. Qui est pâté, et puis comment il s'appelle, IDG. Donc c'est eux qui ont placé. Et puis malheureusement, voilà, ça marche beaucoup à l'affectif. Il apprécie l'homme. Donc il le tolère et il l'accepte. Ça fout un peu le bazar en interne.
Ouais.
Mais bon,
merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je te remercie et je te souhaite un joyeux réveillon de Noël, évidemment. Merci d'avoir été avec nous en ce 24 décembre.
Merci, joyeux Noël à vous aussi.
Ouais, tu vois, Benoît, ouais. Tant que les joueurs ne se mettront pas au niveau de l'équipe qui reçoivent ou qui se déplacent, les joueurs de Lyon ont toujours des difficultés parce que il faut se mettre au niveau. Moi, j'étais joueur et c'est vrai que quand on se déplace ou on reçoit des équipes inférieures à toi, t'as toujours l'impression que tu vas gagner facilement et c'est là les matchs les plus ouais. compliqués, très difficiles à faire.
Un moment, quand t'es 13e de Ligue 1, des équipes inférieures à toi, il n'y en a pas 50. Donc, quoi qu'il arrive,
oui, je suis d'accord.
Pour les matchs. Ouais. Manu, on poursuit le débat dans un instant. On verra qu'il y a quand même des motifs d'espoir pour Lyon, même si on va parler du calendrier, on va parler également du mercato. Aurélien a des infos, ça devrait bouger à Lyon parce que Lyon va être impacté par la Coupe d'Afrique qui démarre début janvier. On fait le point dans un instant, à tout de suite sur RMC.
RMC Football Show.
Benoît Boutron.
18h20 sur RMC, un RMC Football Show spécial. Réveillon de Noël, on vous souhaite à tous un excellent réveillon. Votre Père Noël ce soir, c'est Manu Amoros qui nous accompagne jusqu'à 20h. Évidemment, on le répète, soyez prudents si vous êtes sur la route. Vous avez le temps. Nous, on est là encore pendant 1h40, donc prenez le temps de nous écouter. Personne n'est pressé, évidemment. Dans un quart d'heure, on fera le point sur le Mercato Show, les premières tendances du Mercato hivernal qui démarre le 1er janvier à minuit. Mais tout de suite, on poursuit le débat autour de l'Olympique Lyonnais. Qui est responsable de la crise actuelle? Lyon est 13e de Ligue 1 à l'issue de la phase aller. Aurélien Tiercin, journaliste RMC Sport, est toujours avec nous. Avant d'accueillir Antoine, supporter lyonnais au 32-16, Aurélien, on précise que Lyon devrait recruter. Il y a un nom qui a fuité depuis quelques semaines et ça devrait s'officialiser. C'est un joueur du Zénith Saint-Pétersbourg, un attaquant.
Oui, Sardar Azmoum, le Messi iranien. Bon, on espère en Ligue 1 que ça ne sera pas le Messi de cette année avec le PSG, parce que c'est ouais. un but. Voilà, un but ouais. en 6 mois. Mais bon, bref, c'est un super joueur du Zénith Saint-Pétersbourg, un international iranien. Mmh. Voilà, par exemple, il a marqué 2 buts en 5 matchs de Ligue des Champions avec le Zénith cette saison. Ouais, c'est plutôt un bon joueur. Alors, c'est 85 buts en 208 matchs de championnat russe depuis. Il a joué notamment au Rubin Kazan et au Zénith Saint-Pétersbourg. Il lui reste 6 mois de contrat avec le Zénith, donc il serait libre de s'engager où il veut à partir du mois prochain, à partir du mois de janvier. A priori, c'est bouclé avec l'OL. D'ailleurs, c'est bouclé depuis le début de saison, mais le Zénith n'ayant pas pu recruter de voilà. remplaçant à Azmoum, il est resté en Russie. Donc, ça devrait se faire en janvier si l'OL donne une petite compensation au club russe. Au pire, ça se fera en juin 2022 pour Sardar Azmoum. Mais le président Aulas, dans son interview où il défend notamment Peter Boss défend peu ou prou ouais. finalement, mais il dit voilà, ça veut pas dire qu'il y aura pas d'ajustement via le mercato. Donc notamment Sardar Azmoum, puisqu'on parlait de Memphis Depay, mais aussi des départs à la Coupe d'Afrique des Nations.
On peut les citer, Toko Ekambi qui est le meilleur buteur du club, également Islam Slimani qui part avec l'Algérie, et puis Tilo Kalewere qui est moins utilisé mais qui va partir lui aussi à la Coupe d'Afrique.
Ouais, donc que des attaquants ouais. donc l'intérêt également de recruter un joueur comme Sardar Azmoum. Pour les autres postes, on ne sait pas encore puisque alors certes Jason Denayer est blessé de longue date en défense centrale, mais Jérôme Boateng aussi a été recruté voilà pour un salaire tout de même conséquent, même si ce n'est plus celui du Bayern. Castelo Luqueba a marqué un jeune défenseur du centre de formation a marqué contre Metz, donc ça peut suffire. Après, attention aussi à une mauvaise surprise peut-être du côté des départs. Il y a quelques semaines, Jean-Michel Aulas, lors de la publication des comptes d'OL Group, avait parlé de ces deux Brésiliens, Bruno Guimarães et surtout Lucas Paqueta, alors qu'ils marchent beaucoup moins sur l'eau ces dernières semaines. Mais est-ce qu'il y a aussi une petite brouille avec Peter Boss où il a été sorti à la mi-temps contre Metz? Là, on suppute, ce ne sont pas des informations. Le fait est que Paqueta marche moins bien.
2024.
Normalement, mais Juninho comptait beaucoup dessus. Ouais. Juninho n'est plus là. Est-ce que Lucas Paqueta, qui a donc une valeur marchande élevée pour l'OL, pourrait partir? Ça serait quand même un mauvais signal pour les ambitions de l'OL, évidemment, cette saison, de se priver de, a priori, son meilleur joueur. Ouais. Mais voilà.
Bon, il y a Shaqiri aussi, c'est le joueur qu'on attendait et qui malheureusement déçoit énormément.
Qui n'entre même plus dans les plans de son coach pour l'instant d'ailleurs.
C'est compliqué. Ouais, pour l'instant.
Ouais, exactement. 18h23 sur RMC, il y a également Antoine, supporter lyonnais, qui nous a appelé au 32-16. Salut Antoine.
Salut, bonsoir à tous.
Salut Antoine.
Antoine, toi tu as un avis différent et évidemment on cherche à établir les responsabilités dans cet échec de la première partie de saison de l'Olympique lyonnais. Et pour toi, le grand responsable, c'est l'entraîneur tout simplement, Peter Boss, Antoine.
Alors non, pas forcément. Non. C'est pas, moi c'était plutôt la direction que j'avais envie de pointer du doigt.
Ah d'accord.
pardon, bon, il y a eu un petit
non, problème.
Mais l'idée pour moi, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui nous pendait au nez depuis maintenant quelques années, puisqu'on a un président, une direction, et puis ce duo aussi avec Vincent Ponzo, qui est un peu flou et qui marche à contre-courant un peu du foot moderne et de ce qui se fait. C'est-à-dire que même quand on a voulu changer de cap avec Juninho et Peter Bosz, on n'est jamais allé au bout de nos idées. On n'a jamais donné pleinement les moyens à ces gens de réussir. Que ce soit même sur le recrutement qu'on n'a pas forcément toujours écouté, et même pour s'encadrer, c'est-à-dire que Juninho, on sait qu'il a demandé par exemple des adjoints qu'on lui a toujours refusés. Il y a aussi cette volonté d'avoir seulement 4 scouts pour un club récent. Et donc on se retrouve voilà parfois avec un très bon effectif, évidemment, il y a des très très bons joueurs, mais des trous qu'on n'a pas su combler, justement. Shaqiri qu'on recrute comme un ailier droit alors que c'est plus son poste depuis quelques années. Enfin, il y a plein de choses qui ont été faites bizarrement. C'est pas forcément par incompétence, hein, j'ai envie de dire, mais je pense que c'est vraiment dans cette organisation qui fait que le club est un peu dans le flou. L'organigramme, sincèrement, il est assez compliqué à comprendre. Et pour moi, le fait qu'un mec comme Juninho décide de partir de Lyon, on a presque l'impression un peu dégoûté. C'est assez symptomatique de ce qui se passe. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose qui nous pend au nez, comme je disais tout à l'heure. Mmh. Et puis, bah voilà, c'est arrivé. Donc, on va espérer un regain. Et puis, le mercato, que Marcelo nous aide.
Antoine, donc j'imagine, contrairement à ce que je pensais, que tu soutiens ton coach Peter Bosz, même si les résultats pour l'instant.
Attention, voilà, il n'est pas
exempt de ton reproche.
Voilà, il est responsable aussi. Hein,
Toi, en tant que supporter lyonnais, comment tu as pris la déclaration de Jean-Michel Aulas ce matin avec cette confiance accordée ou renouvelée à Peter Bosz, mais jusqu'à fin février, ouais, c'est ce qu'il a dit.
Comme un coup de pression,
avec cette phrase en plus, il n'y a pas d'entraîneur qui a plus de qualité que Peter Bosz sur le marché. Ouais. Donc en gros, il n'y a pas mieux, donc on se contente de Peter Bosz. Comment tu l'as pris, toi?
Moi, je le prends. Enfin, moi, si je me mets à la place de Peter Bosz, je le prends un peu comme un coup de pression. Enfin, c'est assez rare d'entendre une déclaration d'un dirigeant qui t'explique que t'as sa confiance jusqu'en février. Enfin, ça donne pas une perspective super dingue. D'autant que en février, on n'aura toujours pas joué le Tour d'Europa League. On est direct en 8e.
Tiens, puis d'ailleurs, Antoine, je l'ai pas fait encore, mais je vous précise donc le calendrier de Lyon. On attend de savoir ce qui va se passer en coupe. Évidemment, la décision, ce sera lundi. D'ailleurs, les suites de cette affaire entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais, savoir si le match sera rejoué ou non. Après, dès le début, pour la reprise de la Ligue 1, il y aura la réception du PSG, un déplacement à 3, la réception de Saint-Etienne dans le derby, un déplacement à Monaco. Donc, c'est quand même assez corsé pour l'Olympique lyonnais, Antoine. Hein,
c'est ce que j'allais dire. Voilà, le calendrier, en plus, c'est peut-être pas en sa faveur. Mais bon, après, c'est aussi un moyen de bien rebondir. Moi, par exemple, je suis très content de reprendre par un match contre le Paris Saint-Germain. Parce que je me dis qu'on a tout à gagner dans ce genre de match.
C'est peut-être le moment de les jouer, eux. Hein, parce que les Sud-Américains vont rentrer tard.
Ouais. Exactement. Et puis après, par contre, là, ce dont il va falloir se méfier, c'est évidemment le derby, parce que c'est un match qui est toujours différent. Pense à Silvino qui a été démis de ses fonctions après ce match-là. Ouais. Une contre-performance dans le derby, je pense que Peter Bosz ne passe pas le jour suivant. Donc, il va falloir faire attention, surtout avec un Saint-Etienne qui est quand même 20e. Donc, ça va être compliqué. C'est un petit coup de pression, mais bon, je vois pas non plus aussi l'alternative qu'on aurait. Donc, on n'a jamais été du genre non plus à renvoyer nos entraîneurs assez rapidement.
Ouais, Aurélien nous le disait, ça arrivait 3 fois seulement depuis que Jean-Michel Aulas est président. Ouais.
Exactement, donc on laissera aller au bout de la saison, mais en tout cas j'espère qu'on fera mieux que 13e, parce qu'on évidemment n'est pas à notre place. Quoi.
Toi, tu es supporter lyonnais. Manu, comment tu vis, toi, effectivement, ce qui se passe également entre les supporters et la direction du club? On rappelle que Lyon a été ferme avec ses supporters après les incidents survenus
Benoît, c'est normal.
Ouais, mais est-ce que ça peut ajouter de la tension? Est-ce que c'est également un coup dur?
Bien sûr que ça ajoute de l'attention au niveau du club, et Antoine le disait, quand tu as des supporters que tu arrives pas à maîtriser parce que pour diverses raisons chaque match mettent le bordel, donc c'est compliqué. Déjà les joueurs, t'en fais pas, que les joueurs ils ont peur aussi, hein, parce que qu'est-ce qui peut arriver quand tu joues même à Lyon, t'as peut-être des fois des joueurs ou des supporters qui sont contre leurs joueurs. Donc à partir de là, tu peux avoir peur de toute cette ambiance qui est très difficile. Donc et moi, pour revenir un peu au calendrier, ça me fait pas peur. Lyon, je pense qu'ils vont avoir les armes et ils vont avoir la mentalité de pouvoir se battre, surtout contre Paris Saint-Germain, Saint-Etienne, Monaco, Nice, Lens, parce que c'est des matchs très compliqués. Mais je pense qu'ils vont être là. Ils vont assurer ces matchs-là. Après les matchs un peu plus, je dirais, facile pour eux, admettons à 3, c'est là où il va falloir peut-être voir si réellement ils peuvent se motiver contre ces petites équipes-là qui perdent chaque fois des points.
Et on rappelle d'ailleurs la décision prise par l'Olympique Lyonnais concernant les supporters. Interdiction au groupe de supporters de se déplacer sur les matchs à l'extérieur jusqu'à nouvel ordre. Donc, ça
ouais, mais est-ce que la décision, ils n'auraient pas pu la prendre avant, déjà contre l'Olympique de Marseille? On fait rentrer des gens, on ne les fouille pas, ils font rentrer avec des bouteilles d'eau, avec des fumigènes. Je crois que, il faut être responsable à un moment donné.
Attends, on va demander à Antoine.
Quand le président du Paris FC dit, oui, mais il y a 200 supporters lyonnais qui sont arrivés à la gare de Lyon, ils étaient sous. Mais pourquoi on les laisse rentrer? Explique-moi.
Ouais, mais ça, c'est le pour le coup, faut pas trop rentrer non plus dans la.
Non,
enfin, après, c'est certaines catégories de supporters.
Oui, mais il y a certains paramètres qu'on doit maîtriser aussi. Hein.
Non, mais Antoine, toi qui es supporter lyonnais, comment tu vis tout ça, toi, en fait?
Bah, alors, moi, j'étais abonné au stade, alors je fais pas partie des ultras, mais ça s'est toujours très bien passé. Alors, évidemment, on a ces deux événements coup sur coup. Pour moi, celui qui est, même si évidemment, c'est celui qui a peut-être le moins de résonance, mais le plus grave, évidemment, c'est ce qui s'est passé à Charity, parce qu'on a vu des images qui étaient horribles.
Ouais.
Pour le reste, à Lyon, on a rarement été non plus dans un stade. Enfin, je suis désolé, mais si on compare les points de corner du Vélodrome à tous les gros matchs, on a toujours vu ça et on n'a pas décrit les supporters marseillais comme des fous furieux. Et malheureusement, ça fait aussi partie du truc. Enfin, on espère le voir le moins possible. Mais je pense pas que ça soit ça qui soit responsable de
ouais, mais Antoine, des mauvais résultats. Avoir quand même, on doit avoir du respect vis-à-vis des joueurs qui jouent, qui amènent un spectacle. Donc, balancer une bouteille d'eau ou balancer des fumigènes, les fumigènes, tu sais que c'est pas très bon pour la santé non plus, hein, que ce soit les joueurs et pour les spectateurs aussi. Hein.
Bien sûr, mais je suis 100% d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est juste ce qu'on voit dans tous les stades, même dans les équipes où ça se passe bien par de temps en temps. Donc, c'est pas forcément un symptôme de la crise. Bon. C'est quelque chose qu'on doit régler, mais qui est quand même différent encore du sportif.
Antoine, pour terminer, toi, le supporter lyonnais, est-ce que tu conserves des motifs d'espoir? Il y a quand même une bonne campagne d'Europa League pour l'instant avec cette qualif pour les huitièmes de finale. Il y a seulement 5 points de retard sur le top 5. Tu restes optimiste, voire un petit peu confiant quand même pour la seconde partie de saison?
J'ai envie d'être optimiste parce qu'on a des très bons joueurs à certains endroits. Après, moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est que j'ai l'impression que maintenant, pour gagner un match, c'est la croix et la bannière. Quoi. Peu importe l'adversaire, on va concéder des occasions, des buts, et c'est compliqué. Mais bon, on a de là à être 13e. Et puis, le dernier point, c'est que heureusement, il n'y a pas grand monde qui se détache au classement. On n'est pas très, très loin non plus. Enfin, on est quand même à une certaine distance, mais ça reste jouable. On n'est pas encore à 15 points du podium.
Ouais.
Mais ça peut aller très vite aussi si on ferme au mois de janvier. Donc, il va falloir se ressaisir et j'y crois.
9 points de retard sur le deuxième Nice avec un match de moins, un match à disputer face à Marseille. Merci Antoine d'avoir été avec nous.
Antoine.
Merveilleux réveillon de Noël, hein, évidemment.
Merci à vous aussi, joyeux Noël.
On espère que tu as été sage et que tu auras plein de cadeaux, évidemment.
Si j'arrive à gérer le début du championnat avec ces matchs compliqués et très difficiles.
Ah, bah ça c'est sûr.
Pourquoi pas Lyon revenir dans les trois premiers?
Et puis on a déjà vu Lyon finir fort les saisons, hein, donc ça peut arriver effectivement, une remontée fantastique, au moins pour les places européennes. On rappelle que pour l'instant, il n'y a que 6 points d'écart avec Montpellier qui est 5e. Manu, tu restes là, on continue dans un instant. On va faire un point justement sur les premières infos au mercato. Le marché va s'ouvrir le 1er janvier. Il y a quelques infos déjà à vous donner, notamment un joueur lillois qui va s'engager à la Fiorentina. A tout de suite sur RMC.
RMC Football Show.
Benoît Boutron.
18h32 sur RMC, un joyeux réveillon de Noël à tous. On est là avec Manu Amoros, évidemment. Manu qui a tout préparé. Il n'attend qu'une chose, c'est 20h pour pouvoir tout manger.
Ah non, pas tout manger. J'ai la famille qui est là, donc on va profiter.
Est-ce que tu vas être gâté? C'est ça la question.
Ah bah écoute, je te le dirai demain. Lundi, je te le dirai.
T'as pas d'indice?
Mais normalement, le sapin, autour du sapin, il y a pas mal de cadeaux.
Ah, bah ça, c'est un bon indice. Effectivement. Ouais. On précise que dans un quart d'heure, on parlera de la Première Ligue, cette tradition du Boxing Day. On en parlera avec Salim Bangali.
Ils sont fous.
Est-ce une folie, exactement, de maintenir ce Boxing Day? On rappelle qu'une troisième affiche de Première Ligue a été annulée aujourd'hui, Burnley-Everton, à cause des cas de Covid qui se multiplient en Grande-Bretagne. Mais tout de suite, le Mercato.
RMC,
le Mercato Show.
Avec un autre courageux, Kevin Gasser, journaliste à RMC Sport. Salut Kevin.
Salut Benoît, salut Kevin.
Salut à tous. Alors on le précise, effectivement, le marché va s'ouvrir, le marché hivernal, le 1er janvier, et ce sera pour un mois. Certains joueurs ont pris de l'avance, notamment Jonathan Ikone, qui pourrait signer dans les prochaines heures en Italie, hein, Kevin.
Ouais, la signature est prévue en début de semaine prochaine, c'est une information RMC Sport. Alors l'ailier de 23 ans avait déjà passé sa visite médicale hier, il rejoint donc le club de Florence, 7e de Serie A. Le montant du transfert avoisine les 15 millions d'euros. avec un pourcentage pour le LOSC en cas de future revente. Il connaît sous le maillot lillois ses 150 matchs, 16 buts, 27 passes décisives. Ouais. Mais cette saison, l'international français a eu du mal à se montrer décisif avec les Dogs. Seulement 2 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues.
Ouais, un Jonathan Ikoné qui avait été énorme à l'époque de Nicolas Pépé. Il y avait cette attaque incroyable entre Bamba, Ikoné et Pépé. Il a été très bon sur la saison du titre également. Il a même découvert l'équipe de France. Un peu plus en difficulté cette saison. Manu, est-ce que tu penses que c'est une bonne opération pour Lille?
Alors, est-ce qu'ils sont obligés de vendre, Kevin, Lille?
Ah, je pense.
Est-ce
qu'ils sont
obligés de renflouer un peu les caisses?
Ouais, je pense.
Parce que bon, partir à la Fiorentina ou rester à Lille.
C'est ce que j'allais te demander aussi. Est-ce que c'est un bon choix pour lui? C'est vrai.
Alors, est-ce que c'est un bon choix? C'est un choix compliqué. Partir comme ça à la trêve dans un club où tu connais pas grand-chose, il va falloir se mettre au diapason très 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 rapidement parce que comme tout joueur que tu arrives dans un club, eh bien, il va falloir être performant très rapidement. Est-ce qu'il va l'être dans un championnat différent que celui-ci? Ça va être compliqué. À mon avis, ça va être très compliqué. J'aurais peut-être préféré qu'il reste encore jusqu'à la fin du mois, à fin de l'année, pardon, et qui signe à la Fiorentina en début d'année prochaine avec toute une préparation derrière pour s'habituer à ce championnat italien qui est quand même compliqué et difficile. Ouais, et il arrive dans un club qui n'est pas non plus un des grands clubs du championnat italien.
Hein. Ouais, bah tu vois, pour illustrer tes propos, la Fiorentina est 7e de Serie A pour l'instant, derrière la Roma, la Juve, l'Atalanta, le Napoli, le Milan AC et l'Inter Milan. Donc effectivement, la Fiorentina va se battre pour les places européennes, mais peut-être pas pour le podium. Tiens, on va en parler avec Alexis, supporter lillois, qui nous a appelé au 32-16. Salut Alexis.
Salut Alexis. Merci de m'accueillir sur l'antenne.
Bah, avec plaisir, un joyeux réveillon de Noël pour toi, évidemment. On espère que toi aussi, tu as été sage pour être gâté par le Père Noël. Ah oui, Alexis, est-ce que tu penses que c'est une bonne opération pour tout le monde, le transfert d'Ikoné, comme ça en Italie?
Alors, le montant du transfert qui est annoncé, disons que si on l'avait vendu au moment où il côtoyait l'équipe de France, on aurait forcément renfloué un peu plus les caisses. Et justement, je pense que depuis au moment où il était en équipe de France, en fait, il était annoncé également à Naples pour une quarantaine de millions d'euros à cette époque. Et quand ça ne s'est pas fait, je pense, c'est depuis, on a eu du mal à retrouver le vrai Ikoné. Et là, depuis quelques matchs, depuis un mois ou deux, c'est vrai qu'il est très très bon, mais je veux dire, ça fait quasiment 2 ans où il est sur courant alternatif, où il était même pas titulaire.
C'est ce que j'allais dire, ouais.
Donc voilà, là, on revend pour 15 millions, donc on va dire que c'est un mal pour un bien. Je pense que pour lui, ça lui fera du bien aussi de changer d'air. Pour Lille, honnêtement, je pense qu'on trouvera, on le remplacera peut-être avec un joueur qui.
C'est ça la question. Est-ce qu'il sera remplacé, effectivement?
Oui, mais Alexis, c'est vrai que si on regarde dans les années qui sont passées là, c'est vrai qu'il n'a pas été performant. Mais là, comme tu viens de le dire, pendant 2 mois, il a été très bon. Est-ce qu'aujourd'hui, Lille ne se prive pas d'un joueur qui revient en forme et qui va peut-être pouvoir permettre à Lille de pouvoir grimper au classement?
Ouais, mais est-ce que c'est pas un joueur qui revient en forme parce qu'il sait qu'il doit se montrer pour partir au mercato d'hiver?
Ah, mais ça, oui. Ça aussi, oui, bien sûr.
Moi, je pense à ça. Donc, je pense que c'est une bonne opération pour tout le monde. Ça arrange tout le monde. Et puis après, nous, on a Yazici qui est au fond du trou, mais qui va finir par sortir et enfin montrer son niveau, j'espère.
Ouais, mais après, tu vois, c'est important de le remplacer, je pense, quand même, Alexis, parce que Lille a des ambitions sur la seconde partie de saison, tout simplement parce que Lille est pas décroché en Ligue 1, pour l'instant.
Ouais,
Lille est à 3 points du top 5, et Lille est qualifié pour les huitièmes de finale avec des champions, quand même.
Exactement.
Je serai au match retour, j'ai réussi à avoir une place, c'est pour le match retour.
Ah, bah, félicitations.
Bah, super.
Et non, mais c'est vrai que la première partie de saison de Lille a été, assez décevante pour les supporters. Bon, forcément, après un titre, c'est toujours compliqué pour l'équipe, etc.
Et on sait que. Nouvel entraîneur aussi.
Oui, non, bien sûr.
Nouvel entraîneur, nouvelle méthode de travail. Il faut assimiler tout ça. C'est compliqué pour les joueurs.
Non, c'est sûr, mais tout ça pour dire que on a beaucoup plus d'espoir sur la deuxième partie de saison. Sur la qualité de jeu, sur on a perdu pas mal de points à des moments où on faisait, des matchs qu'on maîtrisait. Donc effectivement, je suis d'accord. Si Yadji et Yadji ne seront pas au niveau, il faut remplacer Ikoné par un joueur qui sera tout de suite opérationnel. Mais c'est pareil. Après, faut trouver le joueur, quoi.
Bon, Alexis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, joyeux Noël à toi, en tout
joyeux
cas.
Noël.
Et on te dit à bientôt sur RMC. On voulait juste terminer avec toi, Kevin Gasser, sur un petit round-up des clubs de Ligue 1. Là. Qu'est-ce qui va se passer, a priori, dans les prochains jours
Eh bien, on peut s'attendre à du mouvement, à commencer par Nice, le latéral gauche. Hassan Camara, 27 ans, est en partance pour Watford. C'est une info RMC Sport de Loïc Tanzi. Ses représentants et le club de Première Ligue sont en cours de négociation. À Bordeaux aussi, on peut en parler. La plus mauvaise défense du championnat est en chantier. Le club envisage de recruter un défenseur central et un milieu de terrain. Côté départ, Kalu, Maja, Zerkan, peu utilisés, pourraient eux aller voir ailleurs. L'Olympique Lyonnais, on en a parlé tout à l'heure avec Aurélien Tiercin, branle-bas de combat, qui perd ses joueurs africains pour la CAN. Toko Ekambi, Slimani et Kadewere, l'attaquant iranien du Zénith, Sardar Azmoun, est ciblé donc par les dirigeants du club. Et l'OL pourrait peut-être aussi recruter un milieu défensif au PSG. Pour finir, peut-être opération dégraissage, sans parler du feuilleton Mbappé, bien sûr.
Dont on parlera tout à l'heure. Ouais.
Exactement, mais des joueurs pourraient quitter le club ou au moins en prêt, comme Mauro Icardi, Rafinha, Colin Dagba ou Sergio Rico. Mais le problème, toujours le même, leur salaire élevé freine beaucoup de clubs.
Exactement, et tu as raison de parler effectivement de Rafinha, qui lui devrait partir effectivement vers la Real Sociedad en prêt, a priori, donc à surveiller. Merci Kevin, joyeux Noël à toi également, et on précise que toutes les infos transferts se sont à retrouver sur rmcsport.fr. Manu Amoros reste là jusqu'à 20h, et dans un instant, on traverse la Manche, direction la Grande-Bretagne et la Première Ligue. Le Boxing Day est maintenu. Est-ce une folie? On en débat avec Salim Bongali. À tout de suite sur RMC. Tu es là, donc, mon petit Manu. Oui. On parlait de Noël, effectivement. On va parler de ce Boxing Day qui est maintenu. Manu,
ouais.
Est-ce que tu... T'as aucune idée des cadeaux que tu vas avoir ce soir? Aucune.
Mais pourquoi tu me demandes ça?
Ça m'intéresse. Je veux savoir ce qu'on offre à Manu Amoros. Comment lui fait plaisir, Manu Amoros?
Un cadeau, il ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir avant. Ouais. C'est une surprise. Donc, je ne sais pas. Je le saurai vers minuit, 1h du matin.
Bon.
On verra.
D'accord. Ouais.
Je t'appelle si tu veux, je te dis.
Ah oui, je veux bien, moi, ça m'intéresse vraiment. Je sais pas, des petits chocos pour les courses, quelque chose, non?
Ah ouais, pourquoi pas, ouais.
Peut-être. On va parler,
ouais,
on rappelle. Hein.
Avec Pierrot, à ce moment, c'est pas.
Ah ouais, avec Pierrot, c'est un grand joueur. On rappelle donc le programme qui vous attend jusqu'à 20h. Dans un instant, on parle du Boxing Day en Angleterre. On vous rediffuse une partie de l'interview exclusive de Kylian Mbappé qui a lieu au mois d'octobre dans Rotel sans flamme. Dans un instant, on en débattra justement de Kylian Mbappé avec son avenir au PSG. À tout de suite.
RMC Football Show.
Benoît Boutron.
Jusqu'à 20h sur RMC, on vous souhaite évidemment un merveilleux réveillon de Noël. Profitez de vos proches, faites attention sur la route, respectez les gestes barrières. Désolé, je fais un peu le père fouettard, mais c'est important en cette période, évidemment. On est là donc jusqu'à 20h. Manu, dans un quart d'heure, on va revenir sur un des grands moments de cette première partie de saison, l'interview exclusive de Kylian Mbappé dans Rotten sans flamme. C'était le 5 octobre. Il est revenu sur l'Euro raté avec l'équipe de France et sur son faux départ du PSG. Est-ce qu'il l'a digéré? Vous allez pouvoir le réentendre, Kylian Mbappé. Puis on en débattra juste après. Donc ce sera intéressant. Est-ce que Paris doit déjà faire le deuil de Kylian Mbappé? Mais prenons tout de suite la direction de l'Angleterre, la Grande-Bretagne qui est frappée de plein fouet par la nouvelle vague de Covid et par le variant Omicron. Le Boxing Day a tout de même été maintenu alors que de nombreux clubs sont touchés par l'épidémie. La rencontre qui était prévue dimanche d'ailleurs entre Burnley et Everton a été annulée à cause de nombreux cas dans l'effectif d'Everton. C'est le troisième match annulé après Liverpool-Leeds et Wolverhampton-Watford. On précise que plusieurs entraîneurs se sont exprimés en conférence de presse pour protester contre cette décision. Il y a eu Antonio Conte, le coach de Tottenham, mais surtout Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, qui lance carrément un appel à la grève.
Les joueurs et les managers tous ensemble ont besoin de faire une grève ou faire quelque chose, parce que les mots seuls ne suffiront pas. Cela ne sera pas résolu parce que l'UEFA, la FIFA, la Première Ligue, les diffuseurs, pour eux, les affaires sont toujours plus importantes que le bien-être des joueurs. Ici, chacun décide pour lui-même. Nous parlons de bien-être des joueurs. Peut-être que les associations de joueurs devraient dire « Ok, nous ne jouons plus tant que nous n'avons pas résolu cette situation ».
Et voilà, la prise de position forte de la part de Pep Guardiola. Manu, on va en parler avec Salim Bongali, présentateur de PL Live sur RMC Sport, qui est avec nous. Salut Salim.
Salut messieurs.
Salut Salim.
C'est beau d'être avec nous le 24 décembre. En même temps, toi, t'es en pleine période de travail.
Ah
hein,
oui, moi, j'ai pas de boxing day, rien de tout ça. Hein.
C'est vrai que le Boxing Day, c'est toujours particulier pour les équipes qui travaillent sur la Première Ligue. Alors Salim, on le rappelle, la situation sanitaire est préoccupante au Royaume-Uni. 122 000 cas positifs recensés hier. Est-ce qu'un report généralisé de ce Boxing Day est toujours envisageable à ton?
Alors, on n'est jamais à l'abri d'une surprise avec la Première Ligue, mais honnêtement, à quelques dizaines d'heures de ce Boxing Day, de ce 26 décembre, on voit mal la Première Ligue tout d'un coup décider d'arrêter tout et donc de tout reporter. Ça paraîtrait extrêmement surprenant, surtout que la Première Ligue, vraiment dans son objectif, et l'a utilisé plusieurs fois ces termes, le fameux cas par cas. C'est pour cette raison que ce Liverpool-Leeds, puis ce Wolverhampton-Watford, puis finalement ce Burnley-Everton ont été annulés, mais de manière progressive. On a essayé de tenir bon, on a essayé de compter les cas et d'espérer qu'il y ait un peu moins de cas, un peu moins de joueurs indisponibles. Mais finalement, on les a annulés ces matchs, mais c'est vraiment du cas par cas. C'est pour cette raison qu'on voit mal la Première Ligue finalement décider d'annuler toute la journée.
Alors avant d'entendre l'avis de Manu, est-ce que tu peux nous rappeler le règlement tout simplement, quand est-ce qu'on décide d'annuler un match de PL?
Alors il faut rappeler une chose, c'est qu'en Première Ligue, vous avez droit à un certain nombre de joueurs. À la base, vous avez droit à 25 joueurs sur une liste, plus les jeunes, d'accord? Donc ça peut donner une trentaine, 35 joueurs potentiellement disponibles. Sauf que la Première Ligue dit, si vous avez moins de 14 joueurs, j'entends par 14 joueurs pro en l'occurrence, ça veut dire qu'en gros vous avez 11 absents, et bien là on vous dit non, vous n'avez plus le droit de jouer. Mais c'est là où le au cas par cas devient intéressant aussi. Parce que je vous prends le cas concret avec Everton. Mmh. Everton avait 5 cas de Covid plus 6 joueurs blessés par blessure musculaire, blessure osseuse, choisissez le terme que vous voulez. Donc ça fait 11 absents, mais vous allez me dire, il peut intégrer des jeunes joueurs qui viennent des U23, etc. Sauf que, et là le cas d'Everton est intéressant, dans les U23 aussi, il y avait des joueurs qui étaient touchés par la Covid-19. Et si vous prenez un joueur, mais peut-être que ce joueur qui est négatif aujourd'hui pourrait être positif demain et donc pourrait toucher d'autres joueurs de votre effectif pro. Donc pour le coup, on préfère ne pas prendre de risques et donc annuler ce match d'Everton. Ça a été le cas pour d'autres rencontres aussi qui ont été annulées pour ce genre de raisons aussi. Donc c'est pour cette raison que le chiffre et le nombre 14 est un nombre clé. Okay. En gros, 11 absents entraîne une annulation potentielle.
Manu, quel est ton avis là-dessus? C'est une tradition de Boxing Day en Angleterre, mais est-ce que tu penses qu'il fallait l'annuler?
Alors, c'est vrai que c'est une grosse tradition depuis des années, voire éventuellement des siècles. Mais je pense que Guardiola, il a pas tort, parce qu'à un moment donné, il faut prendre la réalité des choses. La réalité, c'est qu'il y a une pandémie qui est quand même grave et qui tue les gens. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des matchs qui sont annulés, il y a d'autres qui sont pas annulés, mais comme l'a dit Salim, il y a des joueurs qui vont jouer et ils vont se contaminer au fur et à mesure les uns et les autres. Alors, ça sera pas 3 matchs qu'on va annuler, mais ça va être peut-être 4, 5, 6 matchs dans la semaine qui va arriver, parce que le Boxing Day, il dure donc dimanche. Je crois qu'il joue mardi, mercredi et encore dimanche prochain. Donc, à partir de là, il faut faire quand même attention et garantir quand même la sécurité sanitaire des joueurs. C'est quand même très important.
Ouais, on rappelle que de dimanche à jeudi, il y a des matchs de PL tous les jours, de Première Ligue tous les jours.
C'est ça, exactement. Puis le week-end suivant, il y aura le 1er janvier une journée. Juste pour préciser les propos de Pep Guardiola.
Ouais.
Parce que vous l'avez effectivement diffusé, ce sonore où il explique qu'effectivement grève, etc. Mais à la fin du sonore, il dit tout de suite, mais bon, je sais qu'il n'y aura pas grève parce qu'on veut faire plaisir aux supporters, aux fans. Donc voilà, il veut quelque chose, mais il sait que ça n'arrivera pas.
Mais Salim, attends, excuse-moi de te couper. Salim, mais c'est les diffuseurs qui commandent quelque part. Parce que aujourd'hui, les diffuseurs sont tellement importants dans le monde entier, ils payent tellement cher les droits de la PL que ils sont obligés de faire des matchs.
J'ai envie de dire, tout le monde se tient par. Par quoi? Par, j'ai envie de dire, par la barbichette? Non, par l'argent, pour le coup.
Bah
parce
oui.
que c'est un fait. Vous avez des diffuseurs qui, effectivement, payent beaucoup. C'est un fait, c'est indéniable, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous avez des clubs de Première Ligue, parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, les clubs de Première Ligue veulent aussi jouer, la plupart de ces équipes veulent jouer. L'année dernière, il y a eu une réunion entre la Première Ligue d'un côté et les clubs de l'autre. Sur les 20 clubs de Première Ligue, 15 ont dit... on maintient les matchs. Il n'y en a que 5 qui ont dit on ne maintient pas les matchs parmi les 5. Il y avait Arsenal, Liverpool notamment. Mais donc, il y en avait 15 qui disaient...
Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux financiers pour eux également.
Absolument. Par exemple, Antonio Conte, hier en conférence de presse, exprimait son désarroi. Lui, il était agacé parce qu'il expliquait qu'il avait aussi, lui, comme d'autres, d'ailleurs, discuté ou essayé de discuter avec la Première Ligue. Mmh. Et il expliquait, ben, on est tombé face à un mur. Sous-entendu, la Première Ligue est restée droit dans ses bottes en disant, nous, on veut tenir et on veut jouer quoi qu'il arrive.
Surtout que lui, il a été exclu de la Coupe d'Europe parce qu'il a pu jouer son match contre Rennes, souvenez-vous, à cause du nombreux cas de Covid dans l'effectif de
l'Autonomie. Absolument. Donc, vous avez ces situations, vous avez des dirigeants qui, eux, pour la plupart, veulent jouer, des entraîneurs qui, pour la plupart, ben, eux, veulent plutôt se préserver. Thomas Tuchel en est l'exemple aussi. Le trophée en Coupe de la Ligue, il a dû tellement faire tourner son effectif. Il a gagné malgré tout à Brentford, mais il a dû intégrer énormément de jeunes parce que la plupart des joueurs étaient soit touchés, soit potentiellement cas contact. Bref, on est dans un Salmi Gondi qui n'est pas au top.
Salim, et les joueurs, qu'est-ce qu'ils disent là-dedans? Est-ce qu'on leur demande leur avis?
Manuel, voilà.
Non, mais le plus important, c'est les joueurs quand même qui jouent. Et c'est à eux de dire, est-ce qu'on peut jouer, oui ou non? C'est pas le diffuseur, c'est pas la ligue, c'est pas les entraîneurs, c'est pas les dirigeants, c'est quand même les joueurs qui commandent.
Mais le truc, Manuel, pardon, je vais répondre à votre question par une autre question. Très simple. Vous avez été ancien joueur. Quand vous avez votre employeur qui vous dit, Manu, ce match-là, on le joue quoi qu'il arrive. Vous êtes l'employeur. Entre guillemets, ben, soit vous avez votre esprit qui vous dit ben, bon sang, j'ai ma santé, j'ai ma famille, etc. Mais d'autre côté, il y a mon employeur qui me dit je dois jouer, sinon je ne vais pas être payé.
Je suis d'accord, Salim. Mais nous, à l'époque, on n'avait pas la pression des diffuseurs.
Bien sûr. Voilà.
Donc, à partir de là, on pouvait éventuellement faire grève et dire au président, écoutez, nous, on ne joue pas parce qu'il y a ça qui se passe et on n'a pas envie de prendre de risques pour notre santé et puis la santé des autres. Parce que le joueur qui va jouer, il va rentrer chez lui, mais il a rencontré d'autres personnes. Il a peut-être le Covid, donc il va infecter tous ses amis, sa famille qui vont peut-être avoir le Covid.
Et puis pardon, mais moi je suis joueur de Manchester City, j'entends mon entraîneur en conférence de presse qui lance un appel à la grève. Bah, ça me donne encore moins envie d'y aller et de discuter le Boxing Day face à Leicester.
Oui, mais de l'autre côté, encore une fois, je suis d'accord avec vous, mais de l'autre côté, il y a la Première Ligue qui va dire, mais attends, ce City-Leicester, on le permet au final parce qu'il y a pas trop de cas de Covid de part et d'autre. C'est Leicester qui est davantage touché que Manchester City d'ailleurs. Nous, on le permet. Si City tout d'un coup fait la grève, mais nous déjà, c'est zéro point match perdu pour City et peut-être des pénalités financières derrière. Voilà, on dit les diffuseurs, mais il y a la Première Ligue aussi. Il y a beaucoup de choses et des notions économiques importantes.
C'est ce que j'allais te demander, Salim, et toi aussi, je te demande ton avis, Manu. Est-ce que du coup, forcément, ça fausse le championnat anglais, cette Première Ligue? Parce que c'est un moment important de la saison. On entend souvent que c'est le moment où la saison peut se perdre en Angleterre, parce que les matchs sont rapprochés. C'est compliqué d'en sortir indemne. Si certaines équipes ne jouent pas, je pense à Liverpool, ça veut dire plus de récupération. Manu, peut-être que le championnat est faussé. Il y a une lutte à trois pour le titre. C'est délicat.
Mais complètement, il est faussé parce que, comme il expliquait bien tout à l'heure à Salim, c'est que les clubs sont obligés d'avoir 14 joueurs potentiellement compétitifs. Donc, ils vont après puiser chez les 23 ou éventuellement un peu plus parce que les 23, comme il disait tout à l'heure, ils étaient aussi cas Covid. Mais tu peux avoir une équipe que de jeunes, donc inexpérimentés au championnat anglais. Donc ça fausse complètement la situation parce que si tu rencontres Liverpool Amondri parce que tu as 5-6 jeunes qui ont pas d'expérience, ça va être facile quoi.
Non mais dans ce cas-là, je trouve même que Liverpool est avantagé parce que Liverpool ne va pas jouer le 26. Du coup, Liverpool aura également des matchs à disputer, mais Liverpool le prochain match c'est le 28 décembre. Absolument. Alors que City et Chelsea, les autres concurrents au titre, vont eux jouer dès dimanche.
C'est ça. Et pour le coup, Liverpool c'est l'équipe qui entre guillemets pourrait presque bénéficier de cette période parce que à la base Liverpool c'est l'équipe qui a le calendrier le plus dur dans les équipes de tête j'entends puisque il doit affronter ce dimanche normalement Leeds mais ce ne sera donc pas le cas Leicester puis Chelsea mais au final si vous enlevez l'un des trois matchs forcément ça apporte un peu plus de fraîcheur et de facilité
notamment contre Chelsea qui est une lutte contre un concurrent direct pour le titre de Première Ligue.
Et puis Salim aussi le calendrier de l'APL est vraiment très compliqué quoi je crois qu'il y a deux coupes sont organisées la Coupe d'Europe pour certains clubs plus le championnat je te dis pas il y a des situations que peut-être Liverpool n'arrivera pas à jouer contre Leeds.
Juste il y a 14 matchs pour l'instant qui sont reportés en Première Ligue plus déjà 3 autres matchs qui sont reportés, c'est déjà acté en février. En fait ils ont déjà anticipé. Je vous rappelle qu'il y a la Coupe du Monde des clubs en février. Chelsea participe. Deux matchs qui sautent pour cette équipe et puis il y a un Arsenal Liverpool qui était prévu fin février. février et qui saute déjà puisqu'il y a la finale de Coupe de la Ligue ce jour-là et Arsenal ou Liverpool va y participer puisque c'est la demi-finale. Donc déjà 3 matchs en plus. Je vous assure, caler ces 17 matchs, ça va être l'enfer pour la Ligue anglaise.
On a parlé de ce match à 3 donc dans la course au titre entre City, Chelsea et Liverpool. On suivra notamment dimanche l'équipe en forme, c'est Arsenal, Salim, ça marche bien pour les Gunners. 4 victoires consécutives et surtout 4 points d'avance sur West Ham dans cette fameuse lutte importante pour la 4e place. Mmh. Pourquoi importante ? Parce qu'en Angleterre, les 4 premiers sont qualifiés directement pour la Ligue des Champions.
Absolument, et Arsenal, c'est vrai, va beaucoup mieux avec son capitaine, faut-il le rappeler, Alexandre Lacazette, qui est désormais le capitaine d'Arsenal désormais depuis 4 rencontres, depuis, on va dire, la mise au banc de Pierre-Emerick Aubameyang, qui n'est même plus sur le banc désormais, puisqu'il est exclu du groupe. Alexandre Lacazette permet à Arsenal d'aller mieux, un but et 2 passes décisives sur les 4 journées en question. Après, vous l'avez dit, 4 points d'avance sur West Ham. Après, et là, on va aussi regarder cette colonne maintenant des matchs joué, puisque sur les 20 équipes actuellement en Première Ligue, il n'y en a que 7 qui ont joué les 18 matchs possibles, puisque West Ham en est à 17, Manchester United à 16, Tottenham à 15, ce sont les équipes qui suivent Arsenal. Après, vous le savez, et on connaît la règle, des matchs reportés, ce ne sont pas des matchs gagnés forcément.
Exactement, ce n'est pas parce que tu as des matchs en retard que tu vas prendre 3 points à chaque fois, effectivement. Bravo Salim. D'ailleurs, tu peux nous donner le programme de dimanche, Boxing Day sur les antennes d'RMC Sport ?
Oui, on démarra à 15h, parce que certes les matchs, mais également une période de fête au final. Donc on va vous proposer de très nombreuses séquences en plateau.
Tu avais un magnifique pull de Noël.
Absolument, un pull de Noël. Mais surtout, vous verrez, on aura une séquence très sympa avec des maillots vintage. Vous savez, c'est le truc qui revient à la mode. Les méga maillots vintage. Sublime. Et je peux vous assurer qu'on va vous proposer des maillots, des maillots des années 70, 80, 90, que je sors de ma collection. J'en ai beaucoup.
Il n'y a pas que des maillots de West Ham ?
Non, il n'y aura pas que des maillots de West Ham. Des maillots de Manchester, des maillots de Tottenham. Des maillots... Non, mais il y aura des maillots de l'équipe de France aussi. Premier juré.
Il n'y a pas d'Asonic Amoros, non ?
Mais là, il est chez moi pour le coup. C'est pas blague. Okay. Oui, j'irai.
Ah, mais le numéro 2, non. Avec lui. Je te le rachète.
En tout cas, de magnifiques maillots et plein de moments. Et puis surtout, les matchs. À 16h, il y aura un multiplex. À 18h30, un match également. Et puis à 21h, aussi Brentford-Brighton pour finir la journée. Et on va encore une fois enchaîner tous les jours.
Tous les soirs, effectivement. De dimanche à jeudi, la Première Ligue, tous les jours sur les antennes d'RMC Sport. Salim, merci beaucoup.
Au plaisir.
On te souhaite un merveilleux réveillon de Noël,
avec
évidemment.
Beaucoup de matchs.
Et 18h57 sur RMC, on remercie Salim Bongali qui était donc avec nous pour parler de ce Boxing Day à suivre des dimanches sur les antennes d'RMC Sport. Manu, dans un instant, on revient sur un des grands moments de cette première partie de saison sur RMC, l'entretien exclusif de Jérôme Rotten avec Kylian Mbappé. À tout de suite sur RMC.
Ho 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 ho. RMC Football Show.